Bola Chabrunci, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des historiens les plus réputés de Hongrie et dans « Vers l'Est magyar », histoire du touranisme hongrois. Vous nous initiez, il faut bien le dire, à un courant de pensée méconnu en Occident, le touranisme, qui voudrait que les Hongrois soient originaires d'Asie, qu'ils aient un lien de parenté avec les peuples turco-mongols. Vous nous en dites plus sur cette notion de touranisme ?
Il faut dire que les Hongrois, bon, on ne sait pas trop bien ils sont, où les Magyars sont originaires d'Asie, enfin, ou des confins de l'Europe et de l'Asie, probablement. Mais c'est vrai que le touranisme en tant qu'idéologie qui a été développée, disons, dans la deuxième moitié du XIXe siècle et qui est devenu un courant de pensée assez influent au début du XXe, a été développé sur cette base-là. C'est-à-dire que les Hongrois ont des peuples parents parmi les peuples turcs ou turciques d'Asie centrale, voire même parmi les Japonais, enfin que la langue japonaise est une langue parente, ou la langue coréenne. Donc tout cela, c'était un courant de pensée assez puissant, disons jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'en 1945. Et dans mon livre, j'ai essayé d'explorer comment cette idée a été développée, quels ont été les ingrédients de ce courant de pensée et comment il a survécu les années du communisme pour ressurgir après la transition démocratique.
Alors l'âge d'or de ce courant, hein, c'est le début du XXe siècle, vous le disiez, mais avec la création de la première société turanienne en 1910. Pourquoi était-il important pour ces intellectuels que vous décrivez dans votre livre de se rattacher à ces peuples turco-mongols ?
Premièrement, je pense parce qu'il y avait un contexte que je qualifierais de social-darwiniste de l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une course dans l'économie de marché, par exemple, ou dans le capitalisme, mais que l'existence des nations, des ethnies, des races, est intimement lié à une course pour la survie. Et donc, dans ce contexte social-darwiniste de l'époque, qui était parfois poussé à outrance, un certain nombre de penseurs, notamment hongrois, ont pensé que si on n'a pas de parents, on va être forcément perdant dans cette course pour la survie des nations.
La peur de disparaître, c'était ça.
Comme ça, la période. Oui, et il faut savoir qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, dans la naissance de la nation moderne hongroise, cette peur de la disparition a joué un rôle clé. C'est-à-dire que notre langue est assez isolée. Donc, c'est pas comme une langue slave ou une langue germanique où il y a des similarités, des ressemblances, etc., que la langue hongroise est sans parents. Et donc, dans cette course pour la survie, il faut trouver des peuples parents, bâtir des alliances politiques sur cette parenté et pourquoi pas bâtir des relations culturelles, économiques, politiques sur tout cela. Et les jours glorieux du touranisme hongrois a été pendant la Première Guerre mondiale où on a fait tas de choses. On a financé des bourses pour des étudiants turcs, tatars, albanais, bosniaques, pour venir en Hongrie et étudier et éventuellement éduquer les élites futures de ces pays. On a rebaptisé un des grands boulevards de Budapest, le boulevard Mehmet, d'après le nom du sultan de l'Empire ottoman. Enfin, il y avait toutes sortes d'initiatives qui ont essayé de promouvoir de cette idée de cette parenté. Il y avait un certain goût, je dirais, de l'impérialisme à la hongroise qui s'est développé. Et après la Première Guerre mondiale, tout cela s'est un peu estompé et c'est devenu plutôt une idéologie de la frustration, en quelque sorte, comme la Hongrie a été
à cause
Hongrie a perdu, voilà, lors du traité de Trianon, exactement, oui, a perdu deux tiers de son territoire au profit des États voisins. Donc beaucoup de gens se sont dit que toute la modernisation hongroise lancée au XIXe siècle n'avait pas de sens parce que les pays qu'on a pris pour comme des exemples, notamment la France, la Grande-Bretagne ou autres, ils nous ont trahis, entre guillemets. Donc il faut se détourner de l'Occident et se tourner vers l'Orient et trouver des nouvelles alliances, nos frères, entre guillemets, nos frères japonais, nos frères turcs et autres, et bâtir une nouvelle alliance politique et revenir et se venger en quelque sorte et reconquérir les territoires perdus. Donc, mais cette idée est devenue beaucoup moins soutenue dans l'entre-deux-guerres pour différentes raisons, comme avant la Première Guerre mondiale, quand c'était vraiment en vogue.
Oui, vous montrez bien dans votre livre comment il y a d'abord une démarche expansionniste et qu'après le traité de Trianon, avec l'amputation du territoire hongrois, la quête orientale est plus stimulée par un rejet de l'Occident qui, en quelque sorte, a trahi. Alors, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, comment le régime communiste en Hongrie va-t-il appréhender cette théorie du touranisme ?
Le touranisme, c'était en quelque sorte le mal absolu. C'était synonyme de nationalisme exacerbé, etc., qui l'était en partie. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, dans les beaux-arts, dans un certain nombre de domaines artistiques, ce sentiment de touranisme, cet orientalisme, a produit quand même des œuvres remarquables qui existent toujours, notamment dans l'architecture de Budapest. Même aujourd'hui, on retrouve un certain nombre de bâtiments d'inspiration touranienne ou touraniste. Mais pour le communisme, c'était le synonyme du nationalisme exacerbé. Donc, on essayait de faire table rase et de n'en parler du tout. Il y avait quand même, je dirais, en clandestinité, en semi-clandestinité, en marge de la vie scientifique, il y avait un certain nombre d'intellectuels qui ont repris le flambeau quand même et qui ont réussi à tisser des réseaux, même pendant le régime communiste, surtout dans les années 60-70, qui ont retransmis cette sensibilité intellectuelle et ont su, en quelque sorte, fructifier d'après le changement de régime, d'après 1990, quand toute cette idée est ressurgie en Hongrie.
Alors effectivement, c'est ce que vous montrez dans votre livre, les années 90, la Hongrie sort du bloc communiste et la théorie du touranisme va reprendre une nouvelle vivacité. Pourquoi ? Comment ça va se passer ?
Le rôle principal a été joué par un certain nombre de cercles de l'émigration hongroise, notamment aux États-Unis, en Australie. En partie, il y avait un certain nombre de touranistes hongrois en France, d'ailleurs. Et quand ils ont commencé à avoir du vent en poupe, c'était à partir de 2006-2007, quand il y avait une crise économique. Économique et politique en Hongrie. Donc en 2006, je ne veux pas ennuyer les auditeurs avec les détails. Il y avait eu des élections qui ont été gagnées par des forces post-communistes, mais qui ont, en partie, la campagne a été basée sur un certain nombre de falsifications. Et donc, il y avait une crise politique qui s'est éclatée après les élections. Et jumelée avec la crise économique et financière mondiale, il y avait une volonté d'une partie de l'opinion publique hongroise de retour vers les sources, de retrouver les origines, les ancêtres, les racines, et ça a été en partie exploité par l'extrême droite naissante, renaissante en quelque sorte par le parti Jobbik.
Comment Viktor Orban se positionne-t-il vis-à-vis de cette théorie du touranisme ?
C'est vrai que Jobbik, cette partie d'extrême droite qui a repris une partie des idées touranistes, a fait un virage dans la deuxième moitié des années 2010, en essayant de se positionner en tant qu'un parti de l'opposition et du centre-droit ou du centre. Et ils ont essayé d'abandonner ces idées touranistes. Et une partie des intellectuels déçus de ce virage vers la modération de Jobbik ont été repris par le parti au gouvernement, donc par le parti du Fidesz, de Viktor Orban. Ils ont fondé des instituts, il y a des revues, des films qui sont sortis. Donc il y a une récupération politique de l'électorat de l'ancienne extrême droite.
Et justement, la population hongroise, elle, comment elle se positionne ? Est-ce qu'elle est sensible ?
Il faut dire que pour la large population, et on ne dit pas assez en France et en Europe occidentale, quand on regarde les sondages d'Eurobaromètre et autres, les Hongrois sont pour la plupart et dans leur majorité pro-européennes, très engagés dans une vie à l'occidentale. Donc l'Orient a très peu d'attrait sur la société hongroise. De l'autre part, il est indéniable qu'il y a un certain groupe de la société qui sont sensibles à cette approche. Il y a un certain nombre de festivals dans le pays qui célèbrent cette parenté orientale. Il y a des films, des livres, des maisons d'édition, même des instituts de recherche. C'est certainement pas une majorité, mais une minorité très active qui participe, qui achète ses bouquins, qui va à ces festivals. Mais le courant existe. Et juste une dernière phrase, ça a été après le changement de régime, donc depuis 1990, toute cette idée de touranien s'est un petit peu transformée surtout dans la migration hongroise dans les pays occidentaux, dans le monde atlantique, s'est transformée sur une idée de la parenté hungaro ou magyaro-sumérienne. Donc peut-être
cette fois-ci, on est sur le Moyen-Orient, civilisation du Moyen-Orient.
Sur le Moyen-Orient, que les Sumériens sont des ancêtres des Turaniens et on est un proche parent des Sumériens. Donc cette idée est devenue une sous-culture, en quelque sorte, dans ces dernières années. Donc il y a eu une petite transformation de ce touranisme initial.
Bola Chablonsi, merci beaucoup pour votre éclairage sur ce courant de pensée en Hongrie. Merci à vous.
Merci beaucoup.